Toute cette semaine, Jean-Michel Dian rencontre Franz-Olivier Gisbert. Ce soir, profession journaliste.
Vous êtes rentré à Paris-Normandie, ce journal dont votre mère, je crois, avait été propriétaire.
Était une actionnaire parmi d'autres. Parce que mon grand-père était un grand résistant, pourquoi ne pas le dire. Enfin, dès le début, dès 1940, il s'est vraiment lancé dans la résistance. Et il avait un ami très proche qui était Pierre-René Wolff, qui avait une imprimerie, c'était son grand pote. Et à la Libération, le journal a été donné à Pierre-René Wolff et qui a mis comme ça quelques amis. Et mon grand-père était une des figures de la résistance locale, régionale. Et il a eu des parts relativement importantes de ce journal. Bon, après, quand il est mort, ma mère a hérité d'une partie de ses parts, parce qu'il y avait aussi des frères et sœurs. Fin 67, début 68, je décide d'écrire un article sur Alberto Giacometti, qui est mort 2 ans plus tôt. Il est mort en 66, début 66. Je vais présenter, comme ça, l'article à Paris-Normandie. Je tombe sur un rédacteur en chef, qui s'appelle Yvan Recht. Là, je me souviendrai toujours de ce qu'il m'a dit. Qui lit ce papier et qui me dit « Mais c'est quoi ce truc-là » Je dis « Je vous rends hommage. » Bon, c'est bizarre de rendre hommage 2 ans après la mort. Pourquoi? C'est pas un chiffre rond. Mais voilà, c'est le plus grand artiste pour moi. Il est trop méconnu. On n'en parle pas assez. Enfin, c'est bon. Il me dit « Ouais, mais d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord pour passer cet article. Mais ton article, il est pas bon, coco, là. C'est quoi ça? Ça part dans tous les sens. T'as combien d'idées là-dedans? T'as regardé? T'as 5-6 idées. Mais c'est pas ça, un article. Un article, c'est une seule idée que tu vas dérouler. Tu vas avoir d'abord une bonne phrase pour accrocher le lecteur, ou une histoire, ou une citation pour l'accrocher. Après, tu essaieras d'en trouver quand même de temps en temps, mais tu vas dérouler toujours la même idée, et à la fin, il faudra que tu trouves aussi quelque chose d'un peu fort, parce que parfois, les gens, ils recommencent par la fin. Voilà, Yvan Recht, ça, c'est en 1968, et il me dit comment il faut faire un article. Je reviens, peut-être une semaine après, il lit l'article, il me dit « Bravo, Coco, c'est bien ». Bon, et là-dessus, il me dit « Ben, Coco, tu pourrais pas travailler pour nous de temps en temps, tu peux faire la locale autour de Rouen, vous savez. Je suis devenu assez vite comme ça spécialiste de la locale autour de Rouen. Ça s'appelait Rouen rive droite, Barentin, Pavilly, enfin toute cette région, ça remontait jusqu'à Buchy, Bosque-Bordel, c'est une grosse région. Et je faisais des remplacements là. J'ai commencé à gagner pas mal d'argent, c'est à l'époque la presse. Il y avait de l'argent. Et en même temps, on me laissait faire des articles dans la page littéraire de Paris Normandie. Et donc je faisais, si vous voulez, une interview d'Alain Barrière qui faisait un concert dans le même numéro, et puis une grande interview d'Aragon. Je fais 2 interviews d'Aragon assez kilométriques. Et puis voilà, on me laissait faire à peu près ce que je voulais.
Il a fallu déjà de l'entregent à l'époque pour joindre Aragon.
J'avais une passion pour Aragon. J'étais fou de sa poésie, je le reste d'ailleurs. Et donc je voulais à tout prix rencontrer.
Il y avait Monterland, Robe Grillée.
Ah oui, j'ai rencontré tout le monde. Genevoix que j'aimais beaucoup. Tous les écrivains que j'aimais, Jules Romain.
Donc journaliste par la petite porte, des papiers. On construit sa carrière à partir de Paris-Normandie.
Je suis pas sûr, parce que moi, je crois que j'ai pas fait carrière. C'est-à-dire que ça a toujours été un peu ma particularité. C'est-à-dire que je me suis toujours laissé mener. J'avais pas d'objectif. Et je me souviens que quand on me disait « qu'est-ce que tu vas faire plus tard ?»
Compose généralement.
On verra bien. Ans. C'était toujours « oui ». C'était « on verra bien », je ne savais pas. Le monde était ouvert. J'ai toujours vu le monde comme ça, un espace ouvert, on peut faire plein de choses. Rien n'est pire, à mon avis, que ces carrières. C'est hélas, je vois autour de moi, beaucoup d'amis l'ont fait, mais on monte palier après palier. Ça, je comprends pas ça très bien. Parce que moi, j'aime bien l'idée aussi, on peut redescendre de temps en temps, puis on monte après, puis on vient, on repart. Enfin, j'aime bien cette idée-là. Donc, je me suis pas dit, bon, allez, Coco, maintenant tu vas monter à Paris. Non, c'était plus compliqué que ça. C'est-à-dire que j'ai découvert à un moment donné que je gagnais très bien ma vie. C'est-à-dire que j'étais indépendant de mon père, ce qui était important. Voilà, j'allais à la maison. Quand j'allais retrouver mes parents, je retourne chez ma mère.
Vous aviez quel âge, Franz-Olivier Gisbert?
Quand j'étais indépendant, vers 19 ans, 18 ans. Mmh. De toute façon, j'ai commencé à bosser vers 17, 18. Oui, c'est ça. Je travaillais, quoi. Je gagnais de l'argent.
Vous n'avez pas été à l'université?
Oui. J'ai fait 2 ans de droit. Mmh. Et puis après, j'ai fait une école de journaliste qui m'a placé tout de suite. Mais enfin, je travaillais tout le temps. Oui. J'étais déjà, quand j'étais étudiant, j'avais ma voiture, j'étais autonome, j'avais ma chambre de bonne. Enfin, tout allait bien, quoi. Très, très vite, si vous voulez, j'ai découvert, j'avais trouvé un métier qui me donnait qui me donnait, enfin, me permettait de vivre bien. Et la sortie de l'école, de toute façon, je voulais aller au Nouvel Observateur, donc je suis allé au Nouvel Observateur. Vous voyez, c'était pas, comment dire, c'était pas faire carrière, puisque à la sortie de l'école de journaliste, de CFJ que j'avais fait, je me souviens que ils m'avaient trouvé un stage au Monde. Ouais. J'étais très fier. Mais j'ai dit non, moi je m'en fous, je vais aller au Nouvel Observateur.
C'était Jacques Ozouf.
Et oui, c'est Jacques Ozouf, Jacques Julliard, François Furet, enfin, et Gilles Martinet, que j'oublie pas non plus. Enfin, c'est trois professeurs que j'avais eu au centre de formation des journalistes, qui m'ont aidé à aller au Nouvel Observateur, pour lequel il n'y avait pas de stage. D'ailleurs, j'y suis allé sans stage, hein, parce que j'étais tellement sûr de moi, peut-être, je me disais, bah, je vais y arriver, quoi. Et d'ailleurs, j'étais embauché 3 mois après, par Jean-Daniel.
Avec le recul, Franz-Olivier Gisbert, quel plaisir, quelle est la source du plaisir journalistique que vous avez trouvé quand vous aviez 20 ans, est-ce que c'était de rencontrer les personnages que vous vouliez croquer ou portraitiser, ou les enquêtes, c'était... Où était la source du plaisir ? C'était l'écriture même ou la rencontre ?
Alors là, je vais vous répondre par ma devise, j'aime citer cette phrase de Saint-Thérèse de Lisieux, c'est « je choisis tout ». Parce que dans le journalisme, je prends tout, franchement. L'enquête m'a toujours passionné, j'adorais l'enquête, j'ai fait énormément d'enquêtes. J'adore le grand reportage, j'ai été partout. À Paris-Normandie, je me souviens, ça devait être dans 68 ou 69, je ne sais plus, mais je me souviens avoir fait une grande enquête comme ça, énorme, aux États-Unis, autour des Black Panthers, par exemple. J'avais vu tous, les uns après les autres, parce que c'était d'accès assez facile. J'avais fait, bon, j'étais passionné, vous savez, la grande époque des Panthères Noires, là, qui ouais, c'était une sorte de révolution noire aux États-Unis. Puis après, bon, j'ai découvert aussi, voilà, les voyages et puis les rencontres. Vous avez raison, parce que les rencontres, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le journalisme, c'est que vous aimez quelqu'un, vous êtes fasciné par quelqu'un, vous dites à votre rédacteur en chef, je ferai bien le papier. Et puis quand il a confiance en vous, il vous dit, vas-y. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré très tôt Norman Mailer, avec qui je suis devenu très ami. Hein, c'était drôle, quand il venait à Paris, c'était toujours le premier dîner, ou le premier déjeuner, et c'était un personnage absolument merveilleux. Et j'ai rencontré comme ça, évidemment, plein de gens. Julien Green, je suis devenu très ami, enfin, c'était plus que proche, c'était un ami de la famille, par un des enfants, enfin, c'est vrai que c'est le journalisme qui vous les porte. Et moi, j'ai une particularité, j'admire. Il y a des gens que j'admire. Alors, ce sont pas forcément les personnalités politiques, parce que, bon, on peut en admirer quelques-uns. Je pense que c'est un métier très dur, très ingrat. On en prend plein la gueule tout le temps pour pas un rond. En plus, voilà, on a beau travailler tout le temps, on se fait traiter d'escrocs, de parasites, de paresseux. Et alors que c'est un métier extrêmement dur. Mais j'ai jamais tellement été fasciné par les politiques. Bon, ce qui me fascinait, c'était les grands écrivains, les grands artistes. J'ai rencontré, je sais pas, grâce au journalisme, un nombre de gens incroyables. Et je pense à toutes ces rencontres. Et régulièrement, c'est une chance merveilleuse. Parce que d'abord, on apprend beaucoup d'eux. Moi, c'est vrai que si, par exemple, j'avais pas rencontré, et si c'était pas intéressé à ce que j'écrivais, à ce que je faisais, et Norman Mailer, et Julien Green, qui m'a vraiment, qui m'a appris, qui m'a presque, je dirais presque donné les rudiments, je lui dois tellement, j'aurais pas écrit les livres que j'ai écrits. Je suis sûr, j'aurais écrit des romans, j'aurais écrit avant de connaître Julien Green, ou avant de connaître également, je connaissais déjà Norman Mailer, mais c'était pas abouti du tout, c'était pas comme ça qu'il fallait le faire.
Bien sûr.
Donc,
bien sûr.
On a besoin, vous pouvez avoir une interprétation, mais à mon avis, qui est pas totalement fausse, du type, parce que je lis ça souvent dans des articles sur moi, qui recherche un père, puis qui le tue d'ailleurs. Enfin, oui, là, Mitterrand, Jean-Daniel, mais en même temps, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai jamais tué Julien Green. Au contraire, j'ai pas tué non plus Norman Mailer. Non, j'ai une grande admiration pour les artistes, pour les scientifiques aussi. J'ai rencontré un nombre de scientifiques incroyables auxquels je pense souvent. Quelqu'un comme Michel Jouvet, personne n'y pense, ne le connaît particulièrement. C'est un grand spécialiste du rêve, de personnalité. Mais c'est passionnant. On peut passer des journées entières.
Cela dit, vous choisissez des maîtres à penser, des Norman Mailer ou des Julien Green, des personnages qui sont quand même assez ébouriffants sur le plan personnel. Oui. Dire Norman Mailer, c'est quand même le personnage type d'un grand écrivain, d'un grand journaliste, prix Pulitzer, enfin quelqu'un qui a quand même
inouï. Oui, absolument inouï.
C'est un personnage totalement décapant.
Décapant, et libre, fait, à 100%, libre. Merveilleux.
De la même manière, Julien Green, qui était protestant, qui devient catholique, qui après devient athée, je suppose que tout ça, ça vous parle.
Ah oui, bien sûr, et qui était homosexuel et qui en plus s'assumait, voilà. Contrairement aux homosexuels de l'époque.
Et à l'époque, c'était pas si facile que ça. Enfin, c'est pas si vieux que ça, mais tout de même.
Ouais.
Ce genre de personnages vous fascine parce qu'ils sont totalement contradictoires et, en même temps extrêmement lumineux.
Oui, parce qu'on peut les réduire à la subversion, les deux, hein, parce que les deux, il y a quelque chose de très subversif, et puis en même temps, il y avait autre chose. C'est-à-dire que vous avez employé le beau mot, à mon avis, le bon, lumineux, parce que c'était des personnages qui éclairaient, et qui donnaient des ouvertures, enfin, c'est extraordinaire. La violence de Norman Mailer, par exemple, dans ses articles politiques, mais dans ses romans aussi, mais dans ses articles politiques.
Vous en êtes un peu
la violence. Ben oui, mais moi, j'y pense à lui, j'aimerais bien être à son niveau, la violence sur Nixon, la drôlerie, la méchanceté, mais on lit ça aujourd'hui. Faites l'expérience, relisez ces articles, ces morceaux de bravoure, tout ça, ça a été publié, on peut trouver tout ça, mais on dirait que ça a été écrit hier, c'est toujours aussi bon, on s'en fou, on a oublié Nixon, et vous avez Norman Mailer là, et c'est formidable, ça n'a pas pris une ride. Même chose avec certains livres de Julien Green, qui sont d'une force absolument incroyable. Bon, c'est plus irrégulier, mais comme tous les grands écrivains, hein, Julien Green, parce que c'est vrai que c'est une montagne, et bon, faut choisir la bonne pierre.
Curieusement, ce sont deux écrivains qui revendiquent leur filiation américaine, qui sont.
Oui, mais...
Est-ce qu'il y a une relation de...
Ouais, je suis pas sûr.
Vous êtes né aux États-Unis, aimez les États-Unis, votre père est américain. Est-ce qu'il y a quelque chose qui tourne autour de l'idée toute simple que l'écriture, la vie, la littérature, tout ça, c'est un monde, un imaginaire qui vous a accaparé de suite?
Oui, mais la dimension de l'américanitude, comme dirait quelqu'un, n'est pas forcément évident. Si forte. Parce que moi, je suis biculturel. Hein, je comprends très bien tous les enfants de l'immigration qui sont biculturels. C'est-à-dire, j'ai été partagé entre les deux modèles assez longtemps. Il y avait mon père qui détestait l'Amérique, donc j'aurais eu tendance à l'aimer, d'autant que ma mère l'aimait. Mais en même temps, à un moment donné, j'ai choisi. J'ai choisi quand j'avais 20 ans. Il fallait choisir. C'était l'époque du service militaire. Où est-ce que tu vas aller? Tu vas aller en France ou tu vas aller aux États-Unis? J'ai réfléchi. J'ai eu une proposition de travail aux États-Unis, je me souviens.
Comme journaliste?
Oui, enfin, non, c'était, comme bricolo journaliste dans une radio, je me souviens. J'ai hésité. Puis j'ai choisi. Et à partir du moment où j'ai choisi, l'Amérique, c'était fini. J'y vais, en voyage, j'aime bien, je m'y sens chez moi. Mais c'est plus mon pays. Un peu comme Julien Green. Je suis désolé parce que Julien Green, il était devenu français. Il était français. Il était complet.
Enfin,
il avait la double nationalité, mais il se sentait français. Quant à Norman Mailer, je connais, même si il voyageait pas tant que ça, mais je connais peu d'écrivains aussi internationalistes. Vous voyez, c'était l'Amérique était là, ça l'intéressait, c'était un matériau. Mais enfin, franchement, il n'était pas dans, comment dire, c'était pas une caricature d'écrivains américains. Il traitait d'autres problèmes à sa façon, en essayant d'inventer un style et quelque chose de nouveau. Donc, je pense pas que c'est leur américanité qui m'attirait chez eux. Je crois qu'il y avait chez eux, mais vous l'avez un peu dit, c'est d'abord une forme de subversion, il y a un côté iconoclaste et peur de rien. Voilà, même pas peur. Ce sont des gens qui...
La capacité de transgresser que vous avez également mais à votre compte.
Sans avoir peur. Je crois que c'est important. C'est deux personnages qui n'avaient peur de rien. Voilà. Et bon, peut-être avec des substances, sans doute. Norman Mailer est allé beaucoup trop loin sur ce plan. Mais notamment, il y a eu une tentative d'assassinat sur une de ses femmes qui n'était pas très brillante. Enfin bon, il était dans un état particulier. Et d'ailleurs, sa femme lui a pardonné après. Mais bon.
Mais ça vous fascine quand même, hein, ces vies-là.
Oh, c'est pas que ça me fascine. Je pense que c'est des personnages, moi, qui m'ont tellement apporté. Et franchement, je suis arrivé sur eux par l'œuvre. C'est-à-dire Un rêve américain de Norman Mailer. Je sais que c'est un livre que j'ai adoré. Je parle pas de tous les autres. Là, c'est incroyable. Des nus et des morts. Et puis regardez, les derniers livres. Il a fait des livres absolument sublimes. Bah, ce temps, il m'a apporté une leçon, Norman Mailer, parce que son grand livre, Enchanting, c'est le titre en anglais, c'est le roman égyptien. C'est quand même un sombre navet. C'est-à-dire, pendant 10 ans, il a travaillé sur l'œuvre de sa vie. Alors, il faut toujours se méfier des écrivains qui toute la vie, une grande partie de leur vie, travaillent sur leur grande œuvre. En général, c'est raté. Et en revanche, il a fait des livres comme ça, vite fait, qui étaient des chefs-d'œuvre absolus, qui restent. Et je ne parle pas de ses articles, Les Armées de la Nuit, par exemple, qui se passent à ce moment de la guerre du Vietnam.
Grand journaliste.
Mais est-ce que c'est du journalisme d'ailleurs?
Ben non, c'est parce comme que... Hemingway. Hein, c'est... On est dans le même.
On est dans autre chose. Dans parce que moi, j'ai deux écritures, pour moi, sont très différentes. Et quand même, là, c'est en fait. C'est... Oui, est-ce que ça reste un peu du journalisme parce qu'il parle de la réalité d'aujourd'hui, mais il la transcende, il la déforme tellement que là, on est vraiment dans la littérature.
Revenons, Franz-Olivier Gisbert, à votre passion qui est le journalisme et votre choix d'aller au Nouvel Observateur. Vous auriez pu vous dire, je vais aller au Monde ou je vais aller dans un autre journal. Peu importe l'idée, c'est l'Observateur. Pourquoi ? C'était Jean Daniel, son patron, son inspirateur. C'était Claude Perdriel, qui a un rôle différent. Mais est-ce que c'était les intellectuels qui étaient capables de réunir le Nouvel Observateur autour de lui ? Qu'est-ce qui vous l'a fasciné ?
Ce qui me fascinait, c'est que c'était le talent qui était là. Enfin, bon, il était ailleurs dans les autres journaux, je ne vais pas vous dire le contraire. Il y avait là-dedans une force. Hein. Vous étiez d'ailleurs dans ce journal, dont vous aviez un petit bureau. Moi, vous voyez défiler Jean-Paul Sartre. Hein. Voilà, moi j'ai souvent vu. Je serrais la main, il était là. Il y avait de mauvaises ondes avec lui, je ne sais pas. C'est pas quelqu'un qui me fascinait du tout, contrairement à la plupart des autres.
Mais enfin, c'était un mythe
mais,
vivant.
Voilà, il y avait un nombre de mythes vivants. Michel Foucault. Enfin là, il n'y avait que des ondes positives quand il passait. Vous voyez, c'était
un personnage merveilleux. Enfin,
oui, tout ça. Bon, Jean-François Revel était parti, hélas, mais j'aurais bien aimé. Il aurait bien eu sa place aussi, quoi. Donc j'étais attiré, évidemment, par tout ça. Plus les grands écrivains, plus, je sais pas, bon, je n'ai pas ses opinions, puis je pense pas que ce soit l'immense écrivain qu'on dit, mais Paul Morand, vous le voyez, il était parfois dans les couloirs. Enfin, il y avait comme ça, c'était une espèce de bouillonnement incroyable. Et c'était ça, l'Observateur des années 70. Et je suis arrivé dans un journal, ça m'allait très bien, où il y avait des maoïstes, il y avait des communistes, enfin des cégétistes, vous voyez, un peu compagnons de route de l'Union soviétique. Il y avait des chabanistes, il y avait des sociodémocrates, il y avait des autogestionnaires, il y avait des CFDTistes, des CDTistes, comme on disait à l'époque. Bon, voilà, et c'était. Et on faisait un journal, on faisait le même journal. Et souvent, on s'entendait très bien, alors qu'on pensait rien pareil. Et voilà, ça, c'était ça. Alors, et c'est vrai aussi que c'était facile parce qu'il y avait du succès. Les ventes du Nouvel Observateur à l'époque ne cessaient de progresser. Et puis, il y avait, j'ai pas cité aussi, quelqu'un qui était un peu mon père spirituel. Enfin, il y en avait deux, même François Furet, Jacques Julliard. Et puis, Gilles Martinet, qui était une très belle personne. Vous voyez, Jacques Ozouf. Enfin, bon, voilà, j'étais de mon élément, quoi.
Avez-vous, Franz-Olivier Gisbert, trouvé facilement votre place dans cette institution qu'est l'Obs? Aujourd'hui, l'Obs, à l'époque, l'Observateur.
C'était très facile parce que tout le monde avait sa place. Il suffisait de travailler, ce que je faisais beaucoup. Et vraiment, j'ai jamais eu de problème. Puis quand j'étais pas d'accord, je le disais. Et puis c'est un journal, il y avait brusquement des débats, des gens qui gueulaient. Olivier Todd rentrant du Vietnam et disant le Viet Cong, c'est vraiment de la pourriture. Il avait passé un temps fou avec le Viet Cong, il avait découvert tout ça. Et, enfin, c'était vivant, quoi. Mmh. Et ça, la parole était libre. Donc évidemment, j'étais très à l'aise. Alors je passais pour un provocateur, vous diriez, parce que bon, je disais des choses parfois qui n'étaient pas du tout politiquement correctes. Mais enfin, ça allait, on n'était pas proscrit, comme ça peut l'être aujourd'hui dans une partie de la presse. Quoi. Il y avait je ne veux pas faire le vieux con qui vous parle d'autrefois, c'était tellement mieux. Mais c'est vrai que la chape de plomb du politiquement correct, à l'époque, n'était pas tombée, vous voyez. Et puis, il y avait mes amis. Parce que sans doute, c'est le très familial, toujours attiré par la peinture ou le dessin. J'adore les dessins. Et évidemment, il y avait Georges Wolinski qui est devenu très vite un ami très proche. Rezer qui était c'était un type absolument merveilleux. Bon, hélas, il n'y avait pas Cabu aussi. Parce que j'avais beaucoup d'admiration pour Cabu et on n'a jamais réussi à l'attirer vers l'Observateur. Mais souvenez-vous de cette bande entre Wolinski, Rezer, Copy aussi. Enfin, il y avait des gens, des dessinateurs merveilleux.
Est-ce qu'au fond, un journal comme le Nouvel Observateur est aussi finalement un symptôme de l'époque? Aujourd'hui, ce n'est plus ce que ça a été. Est-ce qu'au fond, c'est encore possible de retrouver ces niches-là dans la fabrication intellectuelle de la société française? Est-ce qu'il existe encore dans le journalisme aujourd'hui ces places de choix où des journalistes qui aiment spéculer, qui aiment enquêter, trouve une place naturelle? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est Mediapart qui fait ce travail? Est-ce que c'est Slate? Est-ce que c'est l'Internet? Comment ça se passe aujourd'hui par rapport à l'époque que vous avez connue, la belle époque où vous pensiez ensemble?
Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus d'intolérance, c'est clair. il y a toujours l'idée de proscrire, vous savez, de voilà, vous avez quelqu'un qui sort un peu des clous et brusquement tout le système se met en place contre lui. Mmh. C'est arrivé à plein de gens. Je pense à Régis Debray, par exemple, au moment de la guerre en Bosnie, c'est complètement fou. C'est-à-dire, vous aviez une espèce d'énorme campagne comme ça contre un intellectuel parce qu'il a dit un truc un peu de travers. Vous avez les mêmes campagnes contre Michel Onfray, contre Finkielkraut, etc. Donc, on n'est pas tout à fait dans la... Moi, j'ai essayé de recréer ça parce que j'aime cette idée, mais ça, ça demande beaucoup de tolérance. C'est pas toujours simple, parfois, y compris avec les rédactions, mais j'ai essayé de créer ça au point, mais il y a d'autres journaux qui continuent à faire ça. Mais c'est vrai que, à l'époque, je dis pas qu'il y avait ça un peu partout, mais en tout cas, il y avait ça au Nouvel Observateur de manière absolument incroyable. Ça, c'était vraiment le génie de Jean Daniel. C'est-à-dire, il savait faire venir tout le monde. Et puis Jean-Paul Aron, qui est un personnage, il est mort trop tôt, celui-là, parce que c'était une merveille sur tous les sujets. Enfin, bon, grand spécialiste de la cuisine, mais il pouvait parler de tout. Et
est-ce qu'on avait vraiment ça dans les journaux dits concurrents, comme l'Express, qui est arrivé un peu plus tard, avec François Giroux et Jean-Jacques Chabon-Schreiber? Est-ce qu'on avait les mêmes types de débats? Non, pas forcément.
Il y avait quand même
le même type de culture journalistique.
Jean Daniel était formé à l'Express, faut pas oublier, donc c'était quand même bon. Jean-Jacques Savant-Chabert avait ses défauts, n'empêche qu'il savait faire des journaux, surtout avec François Giroux, et il savait faire ça, c'est-à-dire faut rassembler. En fait, un journal, et c'est ça peut-être que les journaux d'aujourd'hui devraient travailler. Un journal, c'est rassembler des gens différents, des sensibilités différentes. C'est très important.
Vous êtes rentré au Nouvel Observateur en 1971. Vous l'avez quitté en 1988. Un an avant la chute du mur, c'était encore les grands débats, les grands conflits, les grandes joutes idéologiques qui continuaient à tenir le devant de la scène. Et puis là, vous transgressez, vous acceptez d'aller diriger la rédaction du Figaro. Ça a été une bombe dans le milieu journalistique. Vous avez été traité de traître. Vous avez eu droit à toutes les critiques possibles de la part de la profession. Avec la distance, le recul, la sagesse aussi, comment vous analysez cette transgression? Ce qui n'était pas facile à l'époque.
Je pense que ce n'était pas une transgression. C'est plus compliqué. Quand j'ai été nommé directeur de la rédaction du Nouvel Observateur en 1985, j'étais très jeune, j'avais 35 ans, j'hésitais parce que je voulais être écrivain. Je disais, mais je vais rentrer dans un truc pas possible. J'étais pris au jeu, et là, le Nouvel Observateur a commencé à marcher. Et c'était un peu compliqué, les relations sont devenues compliquées avec Jean-Daniel. Jean-Daniel, c'était, comment dire, il m'avait fait. Quand j'ai vu le conflit qui montait, qui devenait dingue, il n'y avait pas la place pour les deux. Et je suis parti, comment dire, oui, après une engueulade absolument monstrueuse avec Jean-Daniel. Il m'engueulait jamais devant la rédaction. J'étais populaire dans la rédaction, puisque évidemment le journal marchait très bien. Mais voilà, les engueulades de Jean-Daniel, en tout cas, m'éprouvaient toujours beaucoup psychologiquement. Et en fait, il fallait couper le nœud gordien. Je l'ai coupé. J'ai pris, en fait, après une engueulade monstrueuse début août, la première proposition qui m'est tombée dessus. C'était pas la première fois que Robert Arsan me proposait de venir. J'ai accepté tout de suite parce que c'était une façon de me sauver. Je pense que j'aurais très mal fini si j'étais resté au Nouvel Observateur, parce que c'était un peu une chambre de torture, quoi. C'était très dur. Le journal marchait du feu de Dieu.
Et en même temps, l'un des fondateurs,
l'un des fondateurs, parce que j'ai jamais oublié Claude Perdriel, très important, ne supportait pas du tout que, ne supportait pas la situation, ne me supportait pas même. Donc voilà, il fallait partir. J'ai jamais regretté ça, je me suis retrouvé très bien au Figaro. C'était très spécial, parce que c'est vrai que, bon, les rapports avec Alain Perfit, c'est un secret pour personne, était très compliqué. Il y avait une sorte d'opposition comme ça, idéologique, mais feutrée, mais quand même. Je me souviens d'un déjeuner avec Alain Perfit et une partie de la rédaction. Je venais à peine d'arriver, je crois que c'était la semaine où j'étais arrivé. Il y a Alain Perfit qui présente, qui était directeur, à titre pompeux, du comité éditorial, qui présente tout le monde et qui dit... Michel Rocard, qui est à l'époque Premier ministre, voilà, et tata, et machin, c'est un truc, et là, c'est François-Louis Gisbert qui est là pour le temps, qui restera, ou je sais pas, enfin, de passage, quoi, ça durera pas, quoi. Enfin, c'est une phrase dégueulasse. Et Michel Rocard, qui se trouvait un ami, me prend après à part, totalement terrorisé, mais France, ça fait une connerie, qu'est-ce qui va se passer? Je dis, attends, ça va, tu vois, je suis grand garçon, t'en fais pas, ça, c'est pas fini, ce sera dur, bon. J'y suis arrivé. J'y suis arrivé par le travail. C'est-à-dire que, de toute façon, hein, comme disait Mitterrand, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est le travail. C'est vrai, j'ai toujours été comme ça, mais ça, c'est familial. Mes parents travaillaient comme des chiens. J'ai toujours travaillé comme un chien. Et en plus, j'aime travailler. Ça doit être ma part de masochisme. Mais j'aime travailler, donc voilà, j'y suis arrivé très vite. C'était très compliqué, il y avait des complots, c'était dur. Mais je vais vous dire, j'adorais la rédaction, j'adorais les gens. Et vraiment, j'ai passé... Mais c'était que du bonheur, le Figaro. Ça peut vous choquer. Moi, c'était que du bonheur. On s'est bien amusé. On a eu des moments historiques absolument formidables. J'étais à peine arrivé qu'il y avait la chute du mur. Hein, la chute du mur, j'étais là, je faisais l'éditorial, et vous savez quoi, je faisais l'éditorial en pleurant, j'ai pleuré pendant, mais je pleurais, j'avais presque des sanglots tellement c'était beau, parce que bon, il se trouve que je connaissais de près la situation, puis j'étais allé très souvent dans l'Union soviétique, puis j'avais des amis allemands de l'Est, je savais ce que c'était, et j'étais tellement heureux pour eux. Et voilà, donc, bon, j'ai vécu comme ça des grandes heures, et puis avec une, oui, on avait une grande liberté, d'ailleurs, franchement. Donc, j'ai jamais eu à me dire, j'avais fait une erreur. Bon, sinon, je pense que j'aurais très mal fini.
Aller au Figaro, c'était transgresser quelque chose. Vous étiez, pour la gauche, un journaliste de gauche.
Ben oui, moi, je me considérais pas comme tel. D'ailleurs, voilà. Tous les personnages de la gauche que je connaissais plus que bien à l'époque, Pierre Mauroy, qui était un ami, ça l'a pas du tout étonné. François Mitterrand, ça l'a beaucoup amusé.
Oui, ça l'a amusé.
Bon,
ouais.
Ça l'a amusé. Voilà. Puis franchement, il était d'ailleurs après, vous pourriez faire la même remarque à François Mitterrand. Pourquoi s'il a donné les grandes interviews, toutes les grandes interviews qu'il a données à la fin de sa vie, c'est quand même, excusez-moi, c'est au Figaro et c'est à Ma Pomme, dans le Figaro, hein.
Je cite Philippe Villain, directeur du Figaro, lorsque vous êtes, Robert Hersant est allé vous chercher pour le diriger. 48 heures après, il dit, François-Olivier Gisbert, c'est le plus brillant des journalistes de notre époque, mais le plus pervers et le plus déloyal aussi. J'ai regretté son embauche 48 heures après.
D'abord, c'est pas lui qui m'a embauché, premièrement. Mmh. Et deuxièmement, c'est vrai que, on s'est pas entendu tout de suite. J'ai pas les mêmes valeurs que lui. On n'habitait pas la même planète. Moi, je suis un journaliste. Il peut y avoir des problèmes avec les dirigeants. Moi, je choisis, si vous voulez, les gens avec qui je travaille. Et je me suis pas trompé jusqu'à présent. Jean Daniel, Claude Perdriel, Robert Hersant, parce qu'il a tenu absolument ses engagements. Complètement. Voilà. C'était la liberté. Vous pouvez vérifier. C'est un journal où on pouvait faire ce qu'on voulait. Ça, c'était vraiment dans une conversation très longue là-dessus. Et puis enfin, François Pinault. J'adorais Le Point. C'est un journal où vraiment j'étais tellement bien.
C'est Claude Imbert qui est allé vous chercher.
Oui,
hein, pour diriger
absolument.
Le
avec
Point.
François Pinault, les deux. Mais enfin, c'est pas François Pinault le propriétaire. Et puis Claude Imbert est un vieil ami. Et il est allé me chercher. Et j'étais à l'époque au Figaro et j'ai accepté tout de suite. Parce que là, je crois que j'étais arrivé aussi au bout d'une aventure, d'une histoire. Il fallait que je parte.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jean-Michel Dian avec Franz-Olivier Gisbert. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Jean-Pierre Pernel, réalisation Daniel Finot, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.